Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 1, 10. Attention à la pieuvre. Pendant ce temps, que faisait Rouletabille? C'est la première question que se pose à Jean dès que l'on eut emmené Hubert en prison. Tant qu'Hubert avait été là, il avait été impossible à Jean de quitter le vieil Castounou. Il attendait un mot qui trahirait son rival, peut-être un aveu, en tout cas, quelque indication qui pourrait le jeter sur la trace d'Odette. Hubert parti, Jean s'aperçut que Rouletabille n'était plus là depuis bien des heures. Après sa rapide enquête à Lavardan, le reporter avait sauté dans l'auto qui avait amené les jeunes gens d'Avignon, et il avait pris le chemin des Sainte-Marie. Ayant appris cela, Jean monta dans la petite torpedo du château et s'en fut à tout hasard à la rencontre de Rouletabille. Cependant, la course n'était point rapide. À chaque instant, il s'arrêtait pour questionner les paysans, pour interroger d'un regard circulaire l'immense horizon de la Camargue. Où était Odette? Où était Odette? Si Hubert ne l'avait pas tué comme il avait tué le père, où l'avait-il caché? Dans quelle cabane gardée par les marécages avait-il transporté la pauvre enfant? Ah, Hubert connaissait tous les coins de la Camargue. Si belle, mais si traîtresse par instant, elle avait dû être la complice de ce misérable. Hubert en avait compté tous les tourbillons, derrière les aubes à hautes tiges et aux troncs lisses. Il en avait arpenté tous les ségonaux, du côté du Rhône semé d'îles, hélas, de quel côté chercher. Rarement fin de journée avait été aussi belle entre Arles et la côte. Les eaux reflétaient la douceur du soir qui descendait sur la terre en l'enveloppant d'une vapeur dorée. Au loin, les cloches des Sainte-Marie tintaient sur la campagne apaisée après ce grand jour de fête. Plus près, les rousserolles s'enfuyaient à tire-d'aile en poussant leurs cris joyeux. Debout sur sa voiture, arrêtée à un carrefour où se posait une fois de plus le problème de son cœur, Jean tendit vers l'horizon des bras désespérés. Il appela « Odette ! Odette !» Et puis il retomba et se mit à pleurer. Et puis Jean a honte de sa faiblesse. Ce n'est point avec des larmes qu'il retrouvera ou vengera Odette. Et il lance sa voiture à toute vitesse sur la route des Saintes-Maries. Bientôt, la vieille basilique sort de la lagune, dresse ses tours noires au bord de la mer, découpe sur l'horizon ses mâchicoulis et son chemin de ronde, tel un château fort. Son abside est un véritable donjon qui, jadis, a pu repousser l'assaut des Sarrasins. Maintenant, il couvre de son ombre la tourbe mouvante des Bohémiens. Et soudain, sur la route, Jean voit venir à lui le commencement de la caravane. Ce sont les Iganés venus d'Allemagne et les Siguins venus des portes de fer, qui retournent les premiers dans leur lointain pays. Les mystères ont été vite accomplis cette année. Il y a des années comme celle-ci où les Romanichels quittent le pays avant que commencent les fêtes provençales, des années où ils ne veulent se mêler en rien aux roumis, où, en sortant de la crypte, après leur dévotion bizarre à Sainte-Sara, ils s'enfuient comme s'ils avaient commis un crime. Mais ceux-ci sont moins farouches que joyeux. On chante dans toutes les roulottes. Des jeunes femmes aux yeux de cigale et de vieilles figures de sorcières saluent avec des gestes pleins d'allégresse. Jean pense « Voilà d'où Calista est sortie. Voilà où j'aurais dû la laisser. Qu'est-elle revenue faire au milieu de cette horde ? Rouletabille a peut-être raison de s'en préoccuper. » Mais comme cette pensée l'éloignait d'Odette, suivant un raisonnement qui ramenait tout à Hubert, Jean ne songea bientôt plus à Calista. Il arriva au Sainte-Marie comme on commençait à danser au son des guitares et des accordéons. La grande rue, étroite à ne pas laisser passer de front deux chars, était illuminée de lampions. Des toiles à voiles, tendues d'un toit à l'autre, et qui, tout le jour, avaient répandu leur ombre sur ce corridor, pesaient maintenant, immobiles, sur une atmosphère lourde, où montaient les relents du vin que les servantes versaient à toutes les tables sorties sur les trottoirs. Une gaieté, une bonne humeur parfaite régnaient partout. Beaucoup de bruit, pas de querelle. Des éclats de rire, des propos farces lancés en passant, de la musique, et de temps en temps, l'éclat tonitruant des pétards que les gamins jettent sournoisement dans les jambes des consommateurs. Peu de bohémiens dans cette rue. Ceux qui ne sont pas encore partis restent campés aux alentours, sur la dune et jusque sur la grève. Mais parmi le peuple des matelots, des gardiens et des boutiquiers, quelques belles demoiselles passent, portant le noble costume des Arlésiennes. Devant elles, tous s'effacent avec des saluts, car on connaît leur vertu domestique et leur intrépidité à cheval. Au fond des auberges, des groupes s'entretiennent à voix basse du cruel événement du jour. Les sinistres nouvelles venues du vieil Castounou ont rembruni plus d'un front. On ne comprend rien à la disparition d'Odette. L'affaire est si singulière qu'on ose à peine émettre quelques commentaires. Et puis Hubert, s'il n'a pas beaucoup d'amis, est redouté de tous. Quand Jean, après avoir laissé sa voiture sur la place, pénètre dans la rue, chacun se découvre devant lui et ne dit mot. On le plaint. On s'écarte pour le laisser pénétrer dans la salle de l'hôtel des Saintes-Maries. Le patron, un vieux loup de mer devenu aubergiste, l'accueille avec tristesse, mais se garde de lui poser la moindre question. Jean lui demande « Vous avez vu Rouletabille ?»« Oui, monsieur, il est venu ici le tantôt. »« Où pourrais-je le trouver ?»« Ma foi, monsieur, je n'en sais rien. » « Mon idée est qu'il doit être reparti maintenant. »«
Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?»«
Eh bien, voilà. » En arrivant, il m'a demandé si une dame ne l'attendait pas. « Je vous dis ça à vous parce que je sais que vous êtes ensemble comme les deux doigts de la main. » Je lui ai répondu qu'il n'était venu personne. Là-dessus, il est sorti. Et puis il est revenu un peu plus tard. Il avait l'air très préoccupé. Il m'a encore demandé si la dame n'était pas là. Je lui ai répondu que non. Alors il s'est mis à écrire un petit mot, l'a glissé dans une enveloppe et m'a dit « Je ne crois pas qu'elle vienne maintenant, mais si elle arrivait, vous lui remettriez ceci. » Là-dessus, il est parti et je ne l'ai plus revu. Et c'est ce qui me fait vous dire qu'il a dû quitter les Saintes-Maries.
« Et la dame n'est pas venue ?» interrogea Jean.
« Oui, monsieur, elle est arrivée, il n'y a pas bien longtemps, et je lui ai remis le mot. Elle a paru bien contrariée que monsieur Rouletabille ne l'eût pas attendue. »
Jean pensait. Il a voulu avoir une entrevue avec Calista. Au fond, lui aussi n'aurait pas été fâché de la rencontrer. N'eût-ce été que pour dissiper tout malentendu de ce côté. Après sa dernière entrevue avec son ami, où celle-ci s'était montrée si parfaitement résignée avec cette nuance de fatalisme propre à celle de sa race, il ne pouvait lui entrer dans l'idée qu'elle se serait rendue coupable d'un attentat aussi odieux que celui dont Rouletabille la soupçonnait. Elle ne pouvait avoir oublié tout ce que Jean avait fait pour elle, et en somme, après un dernier cadeau qui assurait son avenir et qu'elle avait accepté, elle n'avait rien à lui reprocher. Calista était venue au Sainte-Marie sans s'en cacher, ayant annoncé le but de son voyage à ses domestiques. Tout ce qu'avait imaginé Rouletabille était un pur roman. Jean fit une description de Calista à l'aubergiste, qui, à son grand étonnement, lui répondit que ce signalement ne s'appliquait en rien à la visiteuse. D'abord, la dame dont il lui parlait était brune, et celle qui était venue était blonde. Jean, étonné, se recueillit un instant. Puis, soudain, une pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. Est-ce que cette dame n'a pas des cheveux coupés courts sur le front ?
Oui, monsieur, c'est bien cela, cette fois.
Jean se rapprocha de l'aubergiste.
Il devait y avoir une adresse sur la lettre, fit-il.
Mais comme l'autre prenait un air discret, Jean lui dit tout de go. Cette lettre n'était-elle point adressée à Madame de Méran ? Et l'aubergiste fit signe qu'il en était ainsi. À la suite de quoi, Jean sortit, l'esprit de plus en plus troublé.
« Il ne peut plus se passer de cette terrible femme, se disait-il. Que peut-il en attendre dans un moment pareil ? Et comment songe-t-il à lui donner des rendez-vous s'il ne l'aime plus comme il le prétend ? »
Laissant ensuite cette affaire, il se mit à la recherche des gardiens, qui étaient l'ordinaire compagnie d'Hubert, car il avait son idée. Mais comme il sortait de la grande clarté de la rue et qu'il se trouvait tout à coup dans la demi-obscurité de la dune, son attention fut tout de suite attirée par deux silhouettes qui passaient non loin de là et qui ne semblaient point lui être inconnues. Un homme et une femme se glissaient le long des murs, puis traversaient soudain un espace désert rayé d'ombre et réapparaissaient dans la clarté dansante d'un feu qui brûlait devant une roulotte. Tout le long de la grève, il y avait beaucoup de ces feux qui formaient comme un demi-cercle autour des Saintes-Maries. Ils avaient été allumés par les tribus de Bohémiens, venus de Béziers et de Pézenas, qui restaient aux Saintes plus longtemps que les autres, car, en somme, ces cigains étaient dans leur pays et n'avaient point grand chemin à faire pour retrouver les routes, le long desquelles ils étaient accoutumés à vivre. La plupart de ces sortes de bivouacs étaient déserts. Les jeunes étaient allés danser, et le souper cuisait sous la surveillance de quelques vieilles à mine de sabbat. Jean ne put retenir une sourde exclamation en reconnaissant dans les deux ombres qu'il suivait Olajeï et la pieuvre. Les deux personnages s'étaient assis à côté d'une vieille qui s'était dressée à leur approche et qui dévisageait la pieuvre avec une certaine défiance. Mais Olajeï parla, la vieille hocha la tête, et il fut visible qu'elle faisait maintenant le meilleur accueil à la nouvelle venue. Ils s'étaient rapprochés tous les trois, et la conversation qu'ils tenaient à voix basse les intéressait tellement que Jean put avancer de quelques pas sans éveiller leur attention. Il aurait bien voulu entendre ce qui se disait, mais cela lui fut impossible. Après cette roulotte, Olajeï et la pieuvre en visitèrent d'autres, et puis tout à coup ils disparurent comme par enchantement, et Jean ne parvint plus à les retrouver. Il rentra tout pensif et très ému de l'aventure dans la lumière de la grande rue. Et là, il fut averti que les gardiens venaient de se réunir à l'auberge du Petit Rhône. Quand il pénétra, le groupe, qui paraissait avoir une conversation des plus animées, se tut soudain. Le regard de Jean fit le tour de ces figures rudes, au front serré, à l'œil hostile, et il leur dit « Vous savez ce qui est arrivé. Croyez-vous que ce soit Hubert qui ait fait le coup ?»«
Ça, non !» répondirent-ils avec unanimité. « Nous ne le croyons pas. »
« Il est cependant en prison pour cela. Si quelqu'un de vous l'a vu la nuit dernière, ça peut le servir. Il faut le dire. » Tous gardèrent le silence.
« Je ne vois pas ici Lou Rousseau Fiamot. »
La rousse flamme laissa tomber Jean. Il pourrait peut-être nous donner quelques renseignements.
Lou Rousseau, un rouquin aux cheveux de feu, avait été autrefois le chef des gardiens de Mauriac. Il était bien connu pour sa force, sa brutalité et son dévouement aveugle au jeune homme.
Une voix répondit. Lou Rousseau Fiamot est parti avant-hier, avec quatre taureaux pour la ferrade de Beaucaire.
C'est bien la première fois que Lou Rousseau Fiamot ne se trouve pas à la fête des Saintes. Il en fera certainement une maladie,
fit remarquer Jean. Et il sortit, n'insistant pas, sachant qu'ils se tenaient tous et qu'ils ne pourraient rien tirer d'eux. Cependant, son voyage aux Saintes n'avait pas été inutile, loin de là. Et il avait hâte de revoir Rouletabille. Une heure et demie plus tard, il le retrouvait à Lavardan. « Eh bien » questionna-t-il. « Eh bien, » répondit Rouletabille, « malgré les avertissements de la jaillie, j'ai voulu aller aux Saintes, mais je n'y étais pas plus tôt arrivé quand la jaillie me rejoignait dans un coin de rue et me faisait entendre à nouveau que la Camargue était très malsaine pour moi. J'ai voulu avoir une explication. Il m'a quitté hâtivement en me disant « J'ai déjà trop bavardé. » Et tu es revenu. « Mon Dieu, oui, d'autant que j'avais encore beaucoup à faire ici. » Et puis, reprit Jean avec une intention qui n'échappa point au reporter, « tu n'avais pas trouvé là-bas celle que tu attendais. »« Je vois que l'on t'a bien renseigné, » répliqua Rouletabille, le sourcil froncé. « En tout cas, je sais une chose, » fit Jean d'une voix sourde. C'est que pendant qu'Ola Jaillie réussissait à te faire quitter les Saintes-Maries, il y restait, lui, avec la pieuvre que tu étais venu voir et que tu n'as pas vue. Mais je les ai vus, moi, tous les deux travaillant à l'on ne sait quelle besogne obscure qui ne doit être ni de ton goût ni du mien, puisqu'ils s'arrangent pour nous la cacher. « Ne crains rien, Jean, » dit Rouletabille de plus en plus sombre. « Je te demande encore 24 heures, et ce n'est ni Ola Jaillie ni la pieuvre qui m'empêcheront de sauver Odette. Je rapporte de là-bas quelque chose qui pourrait nous servir, » dit Jean en arrêtant le reporter qui avait fait un mouvement pour le quitter. « Si c'est Hubert qui a fait le coup, comme je le crois plus que jamais, il a certainement eu des complices, au moins un complice. Eh bien, je viens d'apprendre que Lou Rousseau-Fiamo, son âme damnée, est absent des Saintes depuis 48 heures. « Je le savais, » dit Rouletabille. Et il s'éloigna rapidement de Jean, lui brûlant, comme on dit, la politesse. Santierne n'insista pas. Il se remit au volant et lança sa torpedo sur la route de Beaucaire. Il voulait savoir exactement à quoi s'en tenir sur cette absence de Lou Rousseau-Fiamo. Carnet de Rouletabille à cette date. Ola Jaillie, la pieuvre. J'en pourrais bien avoir raison. Je ne me suis pas assez méfié de la pieuvre. Elle ne peut plus me servir. Elle ne peut que me nuire. Maintenant que je sais par elle que la police n'est pour rien dans mon cambriolage, et après ce qui s'est passé au Sainte-Marie, je devrais rompre entièrement avec elle. Ce n'est pas la première fois que l'idée m'en vient, mais je crois qu'il n'est que temps de la réaliser. En ce qui concerne Ola Jaillie, il y a des moments où je suis sur le bord de son secret, et puis, au moment où je crois le pénétrer, je retombe dans le noir. Les dangers qu'il m'annonce, et dont, soi-disant, il veut me sauver, coïncident trop avec mon cambriolage à Paris, pour qu'il n'y ait pas entre cela et celui-ci un lien étroit. C'est ce lien qui m'échappe tout à fait. Qu'est-on venu faire chez moi? Voilà le trou. Je suis sûre qu'Ola Jaillie, d'un mot, pourrait le combler. Mais, dit-il, il a déjà trop bavardé. Et il me conseille de fuir, comme il me conseillait de ne pas quitter Lavardan. Tout cela se tient, et cependant reste incompréhensible en ce qui me concerne. Une seule chose est certaine, c'est qu'il y a autour de moi quelque chose de très menaçant. Je suis surveillée, je le sens, à chaque pas que je fais à Lavardan et hors de Lavardan. Et je n'échappe à cette surveillance occulte qu'avec les plus grandes difficultés et en déployant une astuce incroyable. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à relever la piste de Calista depuis son arrivée au Sainte-Marie, presque pas à pas, et je sais tout ce qu'elle a fait jusqu'au moment où elle disparaît non loin du vieil Castounou. Descendue comme nous, mais 24 heures plus tôt, à Avignon, elle s'est fait conduire comme nous à Arles, en auto. Mais là, elle a quitté l'auto, a traversé la ville à pied, est allée prendre le premier train à la petite gare d'Arles-Trinquet et est descendue au Sainte-Marie à 9h50. Elle était vêtue simplement, mais fort élégamment, d'une robe en velours tête de nègre, ornée de castor, et d'un chapeau rond agrémenté de poils de singe. Toilette de sa dernière sortie avec Jean et avec moi, quelques jours avant la rupture. Certes, elle ne se cachait pas. Elle s'est rendue tout de suite à l'église et a commencé ses dévotions. Elle s'est rendue ensuite chez le curé et lui a demandé une carte pour la cérémonie de l'après-midi, la descente des reliques. Puis, elle a fait un tour de ville, sans but apparent, s'intéressant aux différents spectacles que lui offraient les campements des bohémiens. À un moment, elle s'approcha d'un groupe qui tout d'abord ne lui accorda pas plus d'attention qu'aux autres passants. Un enfant vint lui demander la charité, elle lui parla. Aussitôt, un homme qui était assis devant elle, lui tournant le dos, lui jeta un regard par-dessus l'épaule, puis en un instant fut debout devant elle. Cet homme la dévisagea, considéra sa toilette et fit entendre sourdement, dans sa langue, entre ses dents serrées, les pires injures. Elle ne broncha pas, laissa tomber quelques mots dans la même langue et s'éloigna. Quand elle fut partie, l'homme et tous ceux qui étaient là crachèrent par terre. Calista, sans émotion apparente, avait laissé derrière elle les saintes et tout le grouillement bohémien qui faisait au village comme une ceinture sordide. Elle gagnait la grève dans son endroit le plus désert et pénétrait dans les débris d'une hutte d'où elle sortait bientôt quasi nue, prête pour le bain. Après le bain, elle s'étendit sur le sable du rivage comme une bête lasse. Tout à coup, il y eut un bondissement près d'elle. C'était l'homme. Elle l'attendait malgré ses injures. Elle se mit à rire en le regardant. Il la fit taire en lui collant sur les lèvres un baiser sauvage. Cet homme, c'était Andrea, celui qui l'avait poursuivi 2 ans auparavant et dont Jean, pour son malheur, l'avait délivré. Si c'était les oripeaux de femme roumie dont Calista était tout à l'heure revêtue qui avaient été l'occasion du furieux accueil d'Andrea, celui-ci, certes, en regardant Calista, n'avait plus rien qui pût blesser sa vue. Tout cela était fort bien calculé. Elle avait trouvé son homme. Il voulut la prendre, elle le repoussa. Mais que ne dut-elle point lui promettre ? Tout de suite, il se montra soumis. Elle s'en fut s'habiller et ils se quittèrent les meilleurs amis du monde. Calista n'assista point à la cérémonie de l'après-midi. Elle quitta subrepticement le village dans une carriole conduite par un bohémien qui la laissa non loin de Lavardan et j'y ai perdu sa trace. Andrea aussi disparut des saintes. J'ai perdu sa trace à lui, à Maguelone le Sauveur. Mais il ne fait point de doute que je la retrouve dans celle du tondeur de chiens dont m'a parlé Estève. À Maguelone le Sauveur, Andrea était à pied, à signaler que ni l'un ni l'autre n'ont pris le train dans lequel ils auraient été certainement remarqués par les employés, car le train de retour pour Arles à 7 heures était vide. Jean vient de me quitter, sans doute parti pour Beaucaire à la recherche de Lou Rousseau Fiamo. Après tout, son voyage ne sera peut-être pas inutile. Il faut s'attendre à tout depuis que j'ai découvert le signe des bohémiens chez Odette. Cadeau offert par Hubert. Et maintenant, je vais cuisiner Estève. Encore beaucoup à apprendre de ce côté. J'ai demandé à Jean 24 heures pour sauver Odette. Et s'il en est encore temps. 11. Où Rouletabille émet une opinion précise sur l'assassin. À la date du 27 mai, carnet de Rouletabille. J'étais persuadée qu'Estève en savait plus long qu'elle n'en avait dit. J'ai fini par lui faire avouer qu'elle avait accompagné, dans ce dernier mois, à plusieurs reprises, Odette dans les bois de Lavardan, et que celle-ci, se cachant de tout le monde, s'y rencontrait avec un singulier personnage que monsieur de Lavardan avait vu une fois avec sa fille, ce dont il s'était montré fort étonné. Il s'agit d'une vieille femme, qui n'est certes point du pays, qui vit loin de tous, comme une sauvage, et qui se terre on ne sait dans quel gîte. Odette a confié à Estève que cette personne avait excité sa pitié, qu'elle lui faisait volontiers l'aumône, et qu'elle en était remerciée par une espèce d'adoration que la vieille avait pour elle. Souvent, celle-ci lui disait la bonne aventure, et lui prédisait les plus hautes destinées, ce dont l'enfant ne faisait que rire. Elle avait voulu dire aussi la bonne aventure à Estève, mais Estève, qui est très superstitieuse et qui croit aux maléfices, s'y est toujours opposée. La vieille avait une figure qui lui faisait peur, et elle ne comprenait point que sa jeune maîtresse pût se plaire dans la compagnie de cette sorcière qui disait s'appeler Zina. Assurément, Zina, d'après la description que m'en fait Estève, doit être bohémienne. Les rencontres avaient lieu le plus souvent entre Lavardan et Albaron, non loin du carrefour de la Fontaine. Or, j'ai pu préciser que l'auto dans laquelle on avait emporté Odette s'était dirigée vers Albaron et qu'on ne l'a plus revue après Albaron. Je sens que je brûle et que le réseau de mon enquête se resserre autour des principaux personnages qui ont été mêlés au drame. Quel a été le rôle d'Hubert dans l'enlèvement d'Odette? Tout est là. Sait-il où elle est? C'est possible, et je le souhaite, mais je n'en suis pas sûre. Et avait-il partie liée entre lui et Calista? L'idée de sa complicité m'est venue dans la minute que j'ai découvert entre lui et les bohémiens ce point de contact qu'est forcément le bijou offert par lui à Odette. Mais je me méfie de cette idée. J'en avais trop besoin. Elle cadrait trop avec mon système pour que je ne m'y sois pas attachée à l'instant même en dehors de tout esprit critique. En effet, de ce côté, rien n'est prouvé. Les bohémiens ont pu agir en passant par la propriété d'Hubert sans être de connivence avec ce dernier. Il leur était beaucoup plus facile, en effet, de passer de chez Hubert dans le vieil Castounou que de pénétrer dans le parc de Lavardan directement, défendu qu'il est de par de très hauts murs du côté de la campagne. Et puis, si Calista, aidée d'Andrea, a fait le coup, elle n'était peut-être point sans ignorer les menaces publiques proférées par Hubert, et elle laissait ainsi les soupçons s'égarer sur Hubert. L'affaire est d'autant plus difficile sur ce point à démêler qu'Hubert est capable de tout. Savait-il que l'on s'emparait d'Odette pendant qu'il était avec M. de Lavardan? Je n'ai rien compris à son regard diabolique, accompagné d'une sorte de rictus sauvage, quand Jean lui a parlé d'Odette. Je l'ai d'autant moins compris que ce regard s'adressait à moi. Carnet de Rouletabille, 27 mai, 10h du soir. Événement capital. J'ai forcé Estève à m'accompagner cet après-midi à Albaron. De là, nous sommes remontés vers Lavardan et nous avons pénétré dans les bois. Je tiens Estève par la terreur. Je la menace de la dénoncer comme complice de l'assassinat de M. de Lavardan. Elle m'a conduit dans les différents endroits où elle et Odette se sont rencontrées avec Zina. Comme nous nous trouvions au rond-point de la Font, j'ai entendu derrière moi un feuillage qui remuait. J'ai sauté dans le fourré. Il y a trop de choses qui remuent autour de moi depuis que je suis en Camargue. Je voudrais bien voir la figure qu'elles ont. J'avais mis le revolver au poing, j'étais décidée à tout pour savoir. Mais tout était retombé au plus absolu silence, et j'eus beau chercher une trace quelconque de ce qui avait remué, de celui ou de celle qui était là tout à l'heure, je ne découvris absolument rien. Et pourtant, j'avais été si prompte à me retourner que j'avais vu le feuillage s'écarter et se refermer. Je secouai toutes les branches, j'examinai les arbres de leur base au sommet, rien. Et cependant, je n'avais pas rêvé. Estève aussi avait entendu, mais pas plus que moi elle n'avait vu. « Retournons, » fit-elle, claquant des dents. « J'ai peur. » Je lui répondis tout haut, « Oui, retournons, nous n'avons plus rien à faire ici. » Et nous remontâmes par un petit sentier de traverse vers le vieil Castounou. Mais, après avoir fait quelques pas, au premier détour, je l'arrêtai d'un signe, et je lui fis comprendre qu'il fallait nous tenir quoi un instant et écouter. Soudain, devant nous, il y eut encore un remuement de feuillage, et cette fois, mon regard se croisa avec un autre regard. Je bondis en m'écriant « Arrête ou je tire !» Mais on fuyait à travers le furet, et ma foi, je tirai. Il y eut un cri, une espèce de gémissement, et puis plus rien. Estève n'avait pas bougé, quasi morte d'effroi. Moi, j'avançais, et je cherchais la personne qui m'avait regardée et qui avait crié. Et je ne la trouvais pas. Et je n'en trouvais nulle trace. La terre était molle à cet endroit, elle eût conservé la moindre empreinte, comme elle gardait les miennes. Il y avait de quoi devenir fou. Sans plus m'occuper d'Estève que je laissais loin derrière moi, je continuai d'avancer, ne sachant trop où j'allais. Et tout à coup, j'aperçus la cause de mon épouvante qui fuyait devant moi en bondissant éperdument. Je poussai un cri et je bondis à mon tour. L'ourson. J'avais reconnu l'ourson de Calista. Je pénétrai derrière lui dans un taillis et je le vis disparaître derrière les branches dans un creux de rocher où je le suivis. Je me trouvai tout de suite dans une sorte de refuge pour troglodytes où, avec quelques planches, on avait créé l'illusion d'une habitation humaine. Il régnait là une pénombre assez épaisse, où je fus quelque temps à distinguer de menus objets comme un grabat, un escabeau, un foyer qui portait encore les traces d'un feu récemment éteint. Enfin, quelque chose remuait au fond de tout cela, avec un gémissement que je connaissais bien. C'était l'ourson. C'était Balogar. Ainsi, Calista l'appelait-elle de son nom bohémien qui signifie « le voleur ». Je m'avançai vers lui avec des paroles amicales, je craignais de l'avoir blessé, mais il n'en était heureusement rien, et il ne me fit pas trop mauvais accueil, bien que nous ne fussions point tout à fait une paire d'amis dans la vie civilisée. Je découvris alors que Balogar s'était blotti sur des vêtements qui ne m'étaient pas inconnus. Il y avait là toute la défroque parisienne de Calista. La toilette en velours taupe garnie de castor. J'en conclus qu'au moins pour le moment, Calista était redevenue bohémienne, et je n'eus aucun mal à imaginer que je me trouvais dans le repère de Zina, où l'on avait tout d'abord transporté la petite Odette. Quel drame s'était passé là, entre Calista, la pauvre enfant, et la vieille Zina! À ce jour, les notes de Rouletabille s'arrêtent là. Cependant, le soir même, vers les 6 heures, une scène des plus importantes se passait à Lavardan, dont nous ne trouvons pas trace dans le carnet du reporter. Le parquet était revenu sur les lieux pour complément d'enquête et avait fait amener Hubert au vieil Castounou. Rouletabille arriva comme on interrogeait celui-ci à nouveau, à l'endroit même où l'on avait trouvé le cadavre de M. de Lavardan. Le père Tavant était là. Après avoir regardé tout ce monde, le reporter interpella directement Hubert. « Je sais, lui dit-il, qui a enlevé Odette, et vous aussi vous le savez. » Sur quoi Hubert se prit à rire de la façon la plus sinistre en fixant le reporter. « Bien sûr que je le sais, » fit-il, « mais je ne le sais pas aussi bien que vous. »
Monsieur de Santierre n'est sur les traces de la rousse Fiamo, continua Rouletabille d'une voix soudain altérée. « Dites toute la vérité, monsieur, et vous pouvez encore vous en tirer. »«
Il ferait mieux, » rétorqua Hubert, « d'être sur les traces de la GEI, de la GEI qui vous a précédé ici de 24 heures.
« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » fit Rouletabille en pâlissant.
« Oh que si, monsieur, vous me comprenez bien. »
Et il continua de ricaner en haussant les épaules. Sur quoi le juge, impatienté, s'écria.
« Voici un conciliabule insupportable. Et votre conduite en tout ceci, monsieur, »
il s'était tourné vers Rouletabille, « est particulièrement inexcusable. Vous semblez prendre plaisir à rendre notre tâche impossible quand vous n'essayez pas de la rendre ridicule. Vous dites que vous savez qui a enlevé mademoiselle de Lavardan. Eh bien, votre devoir est de nous le dénoncer. »
Vous nommez les coupables, répliqua Rouletabille qui avait reconquis tout son calme.
Non, monsieur Crousillat, pour que vous les ratiez.
Monsieur.
Monsieur. « J'aime mieux vous les amener pieds et poings liés, et cela, je vous le promets. »«
Vantardise !» reprit le juge d'instruction visiblement exaspéré. « C'est comme les articles que vous avez télégraphiés à Paris et qui viennent de nous arriver ici. C'est une gageure. Pourquoi prétendez-vous que nous n'arrêterons jamais l'assassin? Vous le connaissez, vous, l'assassin? Vous pourriez nous en donner un aperçu? Il est brun? Il est blond? Il est gras? Il est maigre? »
Maigre, monsieur, répondit Rouletabille sans sourciller. Maigre comme un clou.